Merci Madame la Présidente, bonjour à tous et à toutes. Je suis heureuse de retrouver la délégation. J'espère de tout cœur que la déferlante de questions que nous vous avons adressées hier ne vous a pas empêché de passer une bonne soirée. C'est vrai que la liste de points pour l'Islande est quand même relativement courte puisqu'elle ne comporte que 22 questions alors que pour les autres États, il y en a 25. Aujourd'hui, je vais aborder la question 20, donc possibilité de faire appel pour des condamnations pour délits mineurs. Le code de procédure pénale précise que si l'on n'est pas passible d'une peine d'emprisonnement, eh bien, l'on peut écoper d'une amende ou d'autres sanctions de ce type, mais que ces dernières, en fait, ne sauraient faire l'objet d'appel devant une juridiction supérieure, sauf circonstances exceptionnelles. Alors que les procureurs peuvent au contraire faire appel donc d'éventuelles décisions donc de clémence pour des affaires beaucoup plus graves. La cour d'appel, qui est composée de 15 juges, peut-elle justement, étant donné donc ses capacités de traiter les demandes en appel, peut-elle, disais-je, revoir les décisions pour certaines condamnations et y compris pour les délits mineurs pour veiller à ce que les sanctions ne soient pas disproportionnées. Le paragraphe 14, l'article 14, paragraphe 5 du pacte précise que tout un chacun peut voir sa condamnation réexaminée par une instance juridictionnelle supérieure. Alors, qu'en est-il dans la réalité en Islande ? Après l'adoption de la liste des points, des amendements ont été apportés à la loi sur la police de 1996, lui conférant davantage de pouvoir en matière de surveillance, sans pour autant qu'elle ne soit chapeautée par un mécanisme de vérification. Et il semblerait justement que la surveillance ne fasse pas, la durée de la surveillance ne fasse pas l'objet de garanties, qu'elle ne soit pas encadrée et que les autorités judiciaires n'aient rien à y voir. Apparemment, eh bien, des décisions sont prises, il y a un certain flou autour de la façon dont les décisions de mettre quelqu'un sous surveillance sont prises. Donc moi, j'aimerais être certaine que cette nouvelle loi telle qu'amendée ne constitue pas des violations au droit à la vie privée. Dernière question que j'aborderai pour l'instant, la question numéro 21 en lien avec la liberté de religion. L'article 62 de votre constitution reconnaît l'existence de l'église luthérienne évangélique. Elle dispose donc d'un statut et reçoit chaque année un financement pour lui permettre de fonctionner. Par ailleurs, cette église bénéficie d'exemptions paroissiales, exemptions fiscales, au titre du fait qu'elle constitue une paroisse, et ce parce que beaucoup de personnes s'identifient comme en étant des fidèles, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, eh bien, il y aurait quand même des inégalités de financement au détriment justement de certains autres groupes religieux et confessionnels. J'ai cru comprendre qu'une organisation pour sa part laïque avait exprimé sa vive préoccupation face au fait que le gouvernement ne l'avait pas vraiment consulté dans l'élaboration de politiques publiques relatives à des questions religieuses. Aussi, j'aimerais que vous m'apportiez des explications. Quelles mesures avez-vous prises pour veiller à ce que la reconnaissance constitutionnelle de l'ELC n'est pas d'incidence délétère sur l'exercice des droits consacrés dans le pacte et dont pourraient donc se prévaloir d'autres particuliers, notamment en ce qui concerne le financement de ces différents courants donc, et des lieux saints qui s'y rapportent. Qu'en est-il, par exemple, des organisations dites humanistes? Est-ce qu'elles ont voix au chapitre eu égard à l'élaboration de politiques publiques dans ce contexte? Je crois comprendre, par ailleurs, que c'est le commissaire de district qui est censé donc donner son aval pour que des cérémonies telles que des mariages, entre autres, aient lieu. Donc là, j'insiste sur l'aspect religieux de la chose. À condition, apparemment, c'est ce que vous dites, que ces courants soient établis et stables. Ça, ce sont les termes qu'utilise donc l'instance concernée. Maintenant, j'aimerais être certaine, là encore, qu'il n'y a pas d'inégalité et de discrimination et que tous les groupes sont traités sur un pied d'égalité. Comment adhérez-vous au principe de l'égalité et de transparence ? J'aimerais aborder maintenant la question donc des enfants et de leur affiliation. Ils sont enregistrés à des organisations confessionnelles ou pas, en fonction donc l'appartenance de leurs parents à celle-ci, et ils peuvent décider de s'en écarter dès l'âge de 16 ans. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous veillez à informer vos concitoyens afin qu'ils sachent qu'ils peuvent donc s'affilier à un courant ou pas, d'ailleurs. Quel mécanisme existe-t-il en Islande afin de permettre aux enfants qui en auraient donc la maturité, de modifier leur appartenance religieuse ou leur affiliation avant l'âge de 16 ans. Sur la base de quels critères évaluez-vous la maturité d'un enfant? Y a-t-il, par exemple, des enseignements qui soient dispensés pour sensibiliser l'ensemble des intéressés à ces questions afin qu'ils puissent justement agir en connaissance?